Merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 4h à Paris, 2h en temps universel.
Mathis Limano.
Au sommaire de cette édition, Benjamin Netanyahou menace le Liban de devenir un nouveau Gaza si le Hezbollah n'est pas éradiqué. De nouvelles frappes sur Beyrouth signalées dans la soirée de mardi et la situation humanitaire qui se dégrade rapidement. Également la une, le Ghana et la loi dite anti-LGBTQ toujours en attente d'être promulguée. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum a présenté son plan pour la sécurité dans un pays marqué par une explosion de la violence. Et puis en France, la tentative de la gauche de renverser le nouveau gouvernement a échoué. Bienvenue. Le Proche-Orient un peu plus plongé chaque jour dans les abîmes de la guerre. Ce mardi, dans la soirée, Israël a frappé à plusieurs reprises la banlieue sud de Beyrouth, selon l'ANI, l'agence de presse libanaise, qui rajoute que 4 immeubles se sont effondrés après ces frappes. Le bilan humain, lui, n'est pas encore connu. Plus tôt, ce mardi, le Hezbollah a tiré environ 85 roquettes sur Haïfa, en Israël, faisant un blessé. Cette ville portuaire stratégique n'est qu'à 40 km de la frontière avec le Liban et le Hezbollah menace d'intensifier ses frappes sur Haïfa si le Liban continue d'être pilonné. Une annonce faite après les déclarations du Premier ministre israélien qui menace le Liban de destruction comme à Gaza. Les détails de Muriel Paradon.
Dans une vidéo en anglais postée sur les réseaux sociaux, Benjamin Netanyahou s'adresse directement aux Libanais. « Vous êtes à la croisée des chemins », affirme le Premier ministre israélien. « Si vous voulez retrouver la paix et la prospérité, vous devez vous débarrasser du Hezbollah. » Et il menace.
Vous avez une occasion de sauver le Liban avant qu'il ne sombre dans l'abîme d'une longue guerre qui provoquera des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza.
Une déclaration qualifiée de provocation par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui dit craindre le chaos au Liban si Israël met ses menaces à exécution. Il y a une semaine déjà, Benjamin Netanyahou publiait une vidéo similaire, adressée cette fois aux Iraniens. « Nous sommes à vos côtés », déclarait-il, leur promettant un avenir meilleur, sans un régime, je cite, « de tyran ». Et là encore une menace, il n'y a aucun endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne peut atteindre pour se défendre.
L'Iran, qui s'attend toujours à une riposte israélienne d'envergure, après l'attaque de Téhéran contre l'État hébreu la semaine dernière, 200 missiles avaient été lancés. La guerre qui continue de contaminer toute la région. Le ministère de la Défense syrien rapporte la mort de 7 civils dans une frappe israélienne ce mardi sur un quartier densément peuplé de Damas. Pendant ce temps, le ministre de la Défense israélien a annoncé reporter sa visite à Washington prévue cette semaine. Yoav Gallant repousse ainsi une discussion avec son homologue américain Lloyd Austin, discussion notamment sur les efforts pour un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Aux États-Unis, justement, c'est un ouragan historique et d'une dangerosité sans précédent qui se dirige vers la Floride. Vous devez évacuer maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Le message alarmant lancé par Joe Biden aux habitants de Floride. Signe de la gravité de la situation, Joe Biden a annulé tous ses déplacements prévus cette semaine à l'étranger. L'ouragan Milton est classé niveau 5 par le Centre national des ouragans, c'est la catégorie maximale. Il touchera la Floride entre mercredi et jeudi. L'État qui se relève à peine 2 semaines après le passage de l'ouragan Helene qui a fait 230 victimes aux États-Unis. Un point sur l'actualité africaine désormais qui nous emmène au Ghana et cette manifestation ce mardi à Accra pour exiger la promulgation de la loi dite anti-LGBTQ. Adoptée par le Parlement le 28 février, le texte est toujours en attente de l'aval présidentiel, aval qui tarde à être donné car selon la présidence, 2 recours ont été déposés par la société civile auprès de la Cour suprême et ce pour contester la constitutionnalité du texte. Notre correspondant depuis Accra, Victor Cariou.
Ce n'est pas une, mais bien 2 fois que la Cour suprême a reporté la date de l'audience. La raison ? Toutes les parties n'ont pas déposé leur demande dans les délais prévus par la juridiction, a-t-elle précisé dans un communiqué publié ce lundi. La Cour a également indiqué qu'un nouvel examen de ces demandes devrait se tenir à la mi-octobre, soit 8 mois après le dépôt initial des 2 recours formulés par la société civile, ces derniers demandant l'annulation du texte pour non-respect de la constitution ghanéenne. Cette proposition de loi, si promulguée, condamnerait à des peines allant de 3 à 10 ans de prison toute personne qui s'identifierait comme membre ou qui soutiendrait la communauté LGBTQ. Un texte de fait bloqué, la présidence ayant indiqué dès le mois de mars qu'elle attendait la décision de la Cour suprême avant de se prononcer. Les soutiens de la loi accusent quant à eux le président de céder aux pressions internationales par crainte notamment de perdre des financements, des allégations restées sans réponse à ce jour. Son vice-président et candidat à l'élection du 7 décembre, Mahamudu Bawumia, a quant à lui répété à de maintes reprises son rejet de l'homosexualité, sans jamais cependant se référer directement à la loi. Victor Cariou, Accra, RFI.
En bref, ce nouveau drame en Équateur, 5 personnes tuées par balle mardi lors d'une nouvelle attaque de gang. Ça s'est déroulé proche de Guayaquil, la plus grande ville du pays, mais aussi l'épicentre des violences des gangs armés. Au Mexique, prise de fonction mouvementée pour la nouvelle présidente. Entre les ouragans et la crise de violence au Sinaloa et dans le Guerrero, Claudia Sheinbaum a présenté mardi sa politique de sécurité à travers un plan détaillé par son secrétaire de la sécurité civile. Claudia Sheinbaum s'inscrit comme son prédécesseur en opposition à la guerre contre les cartels déclenchée par l'ex-président Felipe Calderón en 2006. Cette dernière a marqué le début d'une explosion de la violence au Mexique qu'aucun gouvernement n'est parvenu à endiguer. En 2023, plus de 30 000 personnes ont été assassinées et le pays compte plus de 100 000 disparus. À Mexico, pour RFI, Gwendolina Duval.
Se concentrer sur les causes de la violence plutôt que l'affronter directement. À l'instar de son prédécesseur, Claudia Sheinbaum évoque la prévention comme le premier des quatre axes de sa politique de sécurité. Grâce à la réduction de la pauvreté et aux programmes sociaux destinés aux plus vulnérables, elle fait le pari de sortir les jeunes de la violence. Comme promis, elle entend de poursuivre aussi le renforcement de la garde nationale. Ce corps armé créé en 2019 et composé de 133 000 agents est considéré par le gouvernement comme plus fiable que les polices locales, indispensable pour faire face à la puissance de feu des cartels. Sa formation et son contrôle sont désormais sous autorité militaire. Le gouvernement prévoit également d'augmenter ses capacités de renseignement à travers la création d'un sous-secrétariat d'investigation et d'intelligence policière. Enfin, Sheinbaum veut plus de coordination entre son cabinet national et les instances d'État. Toutes les attentes se concentrent sur la réduction du nombre d'homicides au Mexique. 3 jours plus tôt, le maire de la ville de Chilpancingo a été retrouvé décapité dans un village du Guerrero sous l'influence d'un groupe criminel. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Et cette information sur le continent sud-américain, les Brésiliens vont pouvoir à nouveau utiliser X. L'ancien Twitter était suspendu dans le pays depuis plus d'un mois au nom de la lutte contre la désinformation. Un juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné mardi la levée immédiate du blocage de X. Le plus grand pays d'Amérique latine compte 22 millions d'utilisateurs de X. Ouvrons maintenant une page d'actualité française. Le Rassemblement national avait annoncé ne pas la voter. Sans surprise, le nouveau Front populaire échoue à renverser le gouvernement de Michel Barnier via une motion de censure un mois à peine après sa nomination. Le NFP n'obtient que 197 voix, très loin des 289 nécessaires. Raphaël Delvolvé, le débat de cette motion préventive a confirmé ce qu'on savait déjà. La gauche conteste la légitimité du gouvernement qui, lui, se sait sous la menace de l'extrême droite.
C'était un peu retour vers le passé dans l'hémicycle. Comme tout au long de l'été, la gauche continue de revendiquer Matignon, le socialiste Olivier Faure du nouveau Front populaire.
Le 7 juillet, c'est le Front populaire qui est arrivé en tête. 2 mois plus tard, c'est un Premier ministre issu d'un parti laminé et un gouvernement issu d'un parti rejeté par 3 fois en un mois qui sont à la tête du pays.
Le premier secrétaire du PS ne manque évidemment pas de souligner le soutien tacite du RN à ce gouvernement fragile. Michel Barnier répond et se répète. Comme lors de sa déclaration de politique générale, il revendique une plus grande solidité que le NFP.
Il n'y a d'ailleurs pas dans cet hémicycle de majorité absolue, il n'y en a pour personne. Il y a donc simplement, M. Faure, des majorités relatives. Et parmi ces majorités relatives, la majorité relative qui accompagne le gouvernement est aujourd'hui la moins relative.
Dans les autres groupes, cette censure préventive ne convainc pas, notamment sur les bancs de l'extrême droite. Guillaume Bigot, ancien chroniqueur CNews et aujourd'hui élu du RN.
On ne censure pas car c'est inutile à ce stade. Nos déclarations ont plus de poids sur le gouvernement et plus d'effets pour défendre les Français que vos effets de manche et votre censure épouvantail.
Avec les 126 voix du RN, le NFP aurait renversé le gouvernement. Peut-être que ce mariage de circonstances se produira plus tard durant la session parlementaire. La gauche prévoit déjà de remettre ça si le budget est adopté par 49-3.
Les explications de Raphaël Delvolvé. En Outre-mer française, regain de tension en Martinique après la mobilisation contre la vie chère en septembre. 4 gendarmes ont été légèrement blessés par balle la nuit dernière sur l'île française des Caraïbes. Des personnes ont été interpellées en train de dévaliser un magasin près de Fort-de-France. D'autres tentant d'incendier une station-service. Et puis on referme ce journal avec cette question. Les médecins français sont-ils en sécurité ? En 2023, l'Observatoire de l'Ordre des médecins a recensé près de 1600 violences verbales ou physiques à leur encontre, soit une hausse de 27% en un an, s'alarme l'Ordre des médecins. RFI 4h10 à Paris, 2h10 en temps universel. Tout de suite, c'est 8 milliards de voisins.